carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour et merci d'avoir choisi Canal Académie. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit du monde d'où vous nous écoutez. Le 6 juin 1654, la reine Christine de Suède abdique, elle renonce au trône, elle a 28 ans, elle veut être libre. Et elle va l'être au point de devenir l'un des personnages les plus hors normes du XVIIe siècle. Mais qui est la reine Christine ? Quel fut son destin et quelles furent ses relations avec les arts, tant la musique que la littérature? À toutes ces questions et à bien d'autres encore, c'est mon invité Philippe Bossan de l'Académie française qui vous donnera la réponse. Bonjour Monsieur Bossan.
Bonjour.
Merci d'être venu jusqu'à nous après une dure séance de l'Académie française.
Oui, mais pour parler de Christine de Suède, je ferais n'importe quoi.
On sait l'intime connaissance que vous avez du XVIIe siècle, connaissance qui vous a conduit à évoquer tous les musiciens, les peintres, les artistes, les écrivains de ce siècle. Vous avez consacré vos livres à Louis XIV, à Sully, à Stradella, à Monteverdi, et je n'en cite que quelques-uns, pardonnez-moi, je ne peux pas tout citer. Aviez-vous déjà croisé la reine Christine, ou l'avez-vous croisée récemment et avez-vous eu un immense amour pour elle qui vous pousse à écrire sur elle?
J'ai entendu parler d'elle depuis très longtemps, comme tout le monde. C'est un des personnages les plus passionnants du XVIIe siècle, mais je ne savais pas grand-chose sur elle. Et ce sont des musiciens qui m'ont obligé à me pencher sur elle. Et j'ai découvert à ce moment-là qu'en effet, on avait monté pour elle le premier opéra jamais joué en Belgique, sur sa demande. Et nous l'avons monté il y a 3 ans, à Bruxelles justement. Un opéra de Zamponi qui s'appelle Ulysse dans l'île de Circé. Et alors ça m'a obligé à me pencher sur ce personnage tout à fait fascinant. Et du coup, bien, j'ai décidé de faire ce que ses biographes n'ont jamais fait, c'est-à-dire se pencher sur l'importance de la musique dans sa vie.
Dans cet opéra, elle l'avait commandé ou est-ce qu'elle y jouait? Elle chantait elle-même?
Non.
Elle était elle-même musicienne?
Alors,
j'anticipe
oui, alors
sûrement.
Elle a fait beaucoup de choses. Elle chantait, elle jouait, mais pas à cette occasion. Alors, en effet, elle venait d'abdiquer. Et juste après son abdication, elle a quitté la Suède. Elle est allée à Hambourg, puis à Anvers, puis à Bruxelles. Et là, elle a demandé qu'on lui joue Ulysse dans l'île de Circé, dont elle avait entendu parler. Et on s'est véritablement ruiné pour lui faire une représentation grand luxe avec décors, changements, machines, etc., etc. Et c'est, je pense, la première fois qu'elle voyait un opéra. Parce qu'en Suède, elle a fait beaucoup de musique, on va en parler. Elle a fait beaucoup de musique, mais pas jusque-là. Alors, moi, je l'appelle l'européenne de la musique. Parce qu'en effet, elle s'est baladée un petit peu partout. Et où qu'elle soit, elle faisait de la musique. Et toujours par-dessus les frontières, si vous voulez. De ce point de vue, c'est un personnage quand même extraordinaire. Parce que c'est la fille de Gustave Adolphe. C'est-à-dire l'un des plus grands rois du XVIIe siècle. Et même, dirait-on, de l'histoire. Et il est mort lorsqu'elle avait 6 ans à une bataille. Elle avait 6 ans. Et la voilà, vous imaginez ce que c'est que d'être une petite fille de 6 ans et d'être reine?
J'imagine pas bien, non, mais...
Eh ben, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer ça.
Oui.
Parce que c'est pas du tout une princesse de légende comme qu'on en voit dans les contes de Perrault ou simplement l'héritière d'un roi qui va se marier à un jeune prince pour devenir reine. Elle est reine à 6 ans. À 12 ans, elle préside de temps en temps les grandes cérémonies du royaume. À 18 ans, elle préside le Sénat à Stockholm. Et à 28 ans, elle abdique. Alors, chose extraordinaire.
Elle ne règne pas très longtemps, alors.
De 6 ans
oui.
à 28 ans.
De 1632 à 1654,
voilà.
Très précisément.
Alors, chose extraordinaire à laquelle on ne pense jamais. Personne, avant elle, n'a abdiqué, sauf Charles Quint. Charles Quint, malade,
retiré,
vieux,
oui.
Et qui est parti dans son couvent et qui est mort très peu de temps après. Mais à part ça, une abdication, ça n'existe pas. Alors, la voilà reine toute gamine, et puis elle quitte. Elle quitte, et vous le soulignez tout à l'heure, vous aviez raison, elle a écrit, parce qu'elle a écrit des tas de choses, hein. Elle a écrit des bouquins, elle a écrit ses mémoires, elle a écrit des maximes. La liberté de décider ce qu'on veut est plus importante que de gouverner le monde.
Vraiment, elle voulait être elle-même.
Voilà, absolument. Alors, elle n'a jamais dormi plus de 5 heures par nuit. quelquefois moins. Elle travaille toute la journée. À 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, elle est dans les bouquins, elle travaille tout le temps. Alors, c'est même extraordinaire quand on rentre dans les détails quotidiens. J'aime bien les détails quotidiens d'une vie d'autrefois parce que c'est là qu'on mesure les choses. Quand on voit un petit papier écrit de sa main en latin et signé d'elle à une date qui montre qu'elle a 10 ans et qu'elle dit « Je promets de parler toujours latin à mon professeur à partir de lundi prochain. Je l'avais déjà promis, mais je n'avais pas tenu ma promesse. Je le ferai. » Signé Christine, 10 ans. Alors autrement dit, pendant 3 heures, 4 heures, tous les matins, elle parlait latin avec son prof. Alors, elle parlait le suédois, bien sûr, le français aussi bien que Bossuet. Tout ce qu'elle écrit, c'est, presque tout, c'est en français. La moitié de sa correspondance est en français et toutes ses œuvres, c'est en français. Elle parle l'allemand, elle parle l'italien couramment puisqu'elle va habiter Rome, l'espagnol, le latin, je l'ai dit, le grec, un peu d'hébreu, un peu d'arabe. Voilà. C'est pas mal pour une gamine.
Mais une vraie européenne avec quelques langues un peu méditerranéennes, disons.
Alors en plus, sachez qu'elle fait du cheval, qu'elle danse, qu'elle apprend le chant.
Est-ce que c'est ce qu'on appelle une éducation parfaite pour l'époque ou est-ce qu'elle, c'est plus que cela?
C'est beaucoup plus, beaucoup plus. Elle stupéfiait tout le monde.
D'abord, des grandes facilités, je suppose.
Ah oui, elle a une mémoire extraordinaire. Oui. Une mémoire extraordinaire et tout le monde était époustouflé en la voyant. Et alors, quand elle s'est mise à voyager, elle sait tout sur tout le monde. Elle arrive à la cour de France et tout le monde la regarde parce qu'elle sait exactement qui a fait quoi, y compris les choses qu'on ne devrait pas savoir.
Alors, quand elle arrive à la cour de France, c'est la cour de Louis XIV.
C'est la cour de Louis XIV. Alors, d'abord, elle a eu donc son éducation intellectuelle, littéraire, etc. Mais dès sa jeunesse, elle s'intéresse beaucoup à la musique. Et c'est ça que je reproche à ses biographes, parce que beaucoup de gens ont écrit sur elle, quelquefois d'ailleurs d'une manière un peu trop romancée. Je suis un peu sévère.
Accentuant le côté léger ou le côté immoral peut-être du personnage.
On a exagéré, surtout au XVIIIe siècle. Bon, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais elle aime la musique, elle prend des leçons de chant dès son enfance à Stockholm, elle prend des leçons de danse, mais ça c'est normal, à l'époque.
Et elle joue d'un instrument? D'un ou plusieurs?
Plus tard, elle jouera.
Elle jouera plus tard. Étant enfant, elle ne joue pas, s'initier à la musique.
Peut-être que je vais découvrir qu'elle jouait, mais pour l'instant, ce que je sais, c'est que quand elle était à Rome, elle a demandé des leçons de violon à Corelli.
On ne pouvait pas trouver mieux.
Voilà. Alors, européenne de la musique, ça se voit déjà quand elle est toute jeune reine à Stockholm. Parce qu'elle commence par faire venir des musiciens français, des violons de Louis XIV, qu'elle fait venir à Stockholm. Vous savez qu'un violoniste, à cette époque-là, c'est à la fois un instrumentiste et généralement un maître de ballet, un maître de danse en même temps. Les deux métiers sont mêlés. Alors donc, elle apprend la danse, elle apprend avec des Français. Et puis, elle va faire venir aussi des musiciens italiens. Et puis, elle va faire venir la plus grande chanteuse française, qui est Anne de la Barre, qui va venir à Stockholm. Autrement dit, sa jeunesse de jeune reine à Stockholm, avant 28 ans, ça se fait avec des musiciens un peu suédois, quelques Allemands, des Français, des Italiens. Et au fond, c'est elle qui met en place la future grande musique suédoise. Alors, c'est très intéressant, même quand on voit le détail des choses. Nous n'avons que deux manuscrits aujourd'hui qui nous restent du répertoire des 24 violons du roi Louis XIV. Il y en a un qui est à Uppsala, il y en a un qui est à Cassel, c'est pas pour rien.
Ce n'est pas hasard, effectivement.
Et dans ces ballets du répertoire des violons français, nous avons un ballet qui s'appelle le ballet de Stockholm. Ça n'est pas pour rien non plus. Alors si vous voulez bien, on écoute un petit peu du ballet de Stockholm, c'est-à-dire la musique que Christine a entendue certainement, évidemment, quand elle était jeune.
Volontiers. Ballet rapide, j'ai envie de vous demander, Philippe Beaussant, parce que j'ai tout de suite l'image qui me naît devant les yeux. Est-ce que Louis XIV a dansé avec Christine de Suède ?
Avec elle, je ne suis pas sûr, je n'en sais rien. En tout cas, elle a assisté à un ballet où le roi dansait.
Oui.
On va l'entendre tout à l'heure d'ailleurs.
On sait grâce à vos livres qu'il était un excellent danseur.
Je suppose qu'ils ont dansé ensemble. Alors, j'ai l'impression qu'on l'a assez mal jugée en tant que danseuse à la cour de France. Elle devait être un peu trop vive, comme elle était pour tout, vous savez, parce qu'on l'accusait de marcher trop vite, de parler trop vite, de faire tout trop vite.
Elle bouillonnait.
Absolument.
Comment était-elle physiquement ? Décrivez-la nous un peu.
C'est une drôle de personne. Nous avons des portraits d'elle par Sébastien Bourdon, qui l'a peinte plusieurs fois, dont une fois à cheval. Alors c'est très amusant parce qu'on voit bien comment elle est. Elle est un peu maigre. Elle a un grand nez un peu courbé, un peu pointu, une bouche un peu charnue aussi, et des yeux dont on devine sur le portrait qu'ils devaient tourner dans tous les sens tout le temps, et que sa vivacité se retrouvait aussi sur son visage.
C'est une brune.
Alors,
très brune pour une Suédoise.
C'est une perruque qu'elle a là.
Ah bon, c'est parce qu'elle a une perruque.
Elle a une perruque. C'est Mademoiselle de Montpensier d'ailleurs qui la verra un jour, qui vient la voir un jour et la trouve dans son lit. Elle venait de se laver les cheveux. Elle avait une espèce de toile sur la tête, mais elle était chauve. Elle a les cheveux tendus, comme les hommes.
Elle avait les cheveux coupés.
D'ailleurs, elle s'habille la moitié du temps en homme.
Ça devait pas plaire beaucoup à l'époque, non ?
Non. À la cour de France, on l'a regardée d'une drôle de manière. Et même par la suite, quand on voit ses portraits quand elle est un peu plus âgée, même quand elle est habillée en femme, elle porte une jupe courte qui va juste au-dessus de la cheville et qui étonne tout le monde.
Elle provoque un peu,
c'est une provocatrice, un peu volontairement,
non ?
Je crois que c'était sa nature.
Sa nature, oui. En tout cas, une nature très vive, à l'image de cette musique que nous venons d'entendre.
Alors, elle est pleine de contradictions, parce que je viens de vous dire qu'elle était très vive, provocatrice, tout ce que vous voulez. Et en même temps, elle est complètement romanesque, comme on pouvait l'être à l'époque baroque. Et elle est émue par certaines choses, notamment par l'opéra. On verra ça plus tard. Et je pense que l'une des grandes découvertes qu'elle a faites musicalement, justement, c'est Anne de la Barre, cette Française, qui est la plus grande chanteuse du temps de la jeunesse de Louis XIV, qu'elle invite. Et elle lui a écrit plusieurs fois en lui disant « Venez, 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 venez ». Et c'est amusant d'ailleurs parce que toutes les gazettes du XVIIe siècle en France ne parlent que du départ de Christine vers la Suède. Alors madame, vous
partez. De Anne de la Barre vers la Suède.
D'Anne de la Barre qui part à l'appel de la reine Christine, etc., etc. Alors elle arrive là-bas et en effet, elle va avoir là un deuxième aspect de la musique qui, à mon avis, va profondément l'émouvoir. Alors, je vous propose d'écouter un petit fragment d'air chanté par quelqu'un qui succède aujourd'hui à notre merveilleuse Anne de la Barre, un petit air de Boécé, qui était l'un des plus grands compositeurs français de musique vocale.
Je veux vous dire tout.
Une voix d'ange, hein, d'une grande pureté, limpidité.
Donc voilà ce qu'elle a pu entendre avec cette merveilleuse chanteuse française qui est restée quelque temps chez elle. Mais vous savez, cette Christine, elle est fascinante à tout point de vue. Parce que, bon, je vous ai dit toutes les langues qu'elle avait apprises. Mais si vous croyez qu'il n'y a que ça, elle fait de l'histoire, elle se passionne pour toute la littérature ancienne, antique, la poésie, tout. Et un jour, elle se dit, mais il faudrait que je fasse de la philosophie quand même. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ?
Elle invite un philosophe, par exemple.
Monsieur Descartes.
Lui-même et en
voulez-vous
personne.
Voulez-vous venir à Stockholm pour m'enseigner la philosophie ? Alors, ils ont commencé par avoir une longue correspondance pendant plus de 2 ans, où Descartes lui fait de véritables traités. Elle lui pose des questions, il répond sur le bien, sur enfin, tout ce qu'on peut, toutes les questions qu'on peut se poser en philosophie. Et puis, à la fin, elle lui dit, mais venez. Alors, malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé pour plusieurs raisons. D'abord, elle lui a dit « Ne venez pas en hiver, il fait trop froid. Attendez le printemps. » Et puis, Descartes, finalement, apparemment, il était tellement pressé d'aller voir cette merveilleuse reine qu'il est arrivé en novembre.
C'est
alors,
pas
premièrement,
la bonne saison,
il
oui.
faisait très froid. Et deuxièmement, c'était le moment où elle était en train de donner les derniers règlements au traité de Westphalie. Et elle était très, très occupée. Alors, ils se sont très peu vus en décembre, et le pauvre Descartes, il était un petit peu déçu. Puis alors, en plus, vous savez ce qu'elle a fait. Monsieur Descartes, est-ce que vous voulez bien m'écrire le sujet et le scénario d'un ballet ? Parce que nous allons célébrer la paix, etc. On va faire des grandes fêtes. Monsieur Descartes, écrivez-moi, s'il vous plaît. Et elle lui avait même d'abord demandé de danser. Là, il a dit non. Mais il a quand même, vous imaginez Descartes ?
Non, pas vraiment, écrivant un ballet.
Le scénario d'un ballet de cour, il l'a fait. Alors malheureusement, donc ils se sont relativement peu vus en décembre. Après ça, elle est partie et puis elle est revenue. Et à partir du 15 janvier, il a commencé à venir. Mais je vous ai dit tout à l'heure que cette reine dormait très peu. Elle commençait à travailler à 4-5 heures du matin et elle a donné rendez-vous à Descartes tous les matins à 5 heures du matin.
Ça l'a épuisé, le pauvre homme, sûrement, oui.
Et il a fini par attraper une pneumonie et il est mort à Stockholm.
C'est directement lié ou
ah, mais complètement.
C'est... Non, complètement lié à ça.
Oui.
C'est épuisé.
Absolument. Alors, il y a une thèse qui vient de sortir, mais je n'y crois pas, qui dit que Descartes aurait été empoisonné.
Comme tous les gens qui mouraient à l'époque, finalement.
Voilà. Mais personnellement, je n'y crois pas et je ne suis pas le seul à ne pas y croire.
Quel âge avait-il ? Il était âgé ou non ? Pas très
non,
âgé.
Non, pas très âgé. Il avait la 50 et
les années. Cinquantaine, oui.
Voilà. Alors.
Donc, elle porte sur sa conscience la mort.
Eh bien, oui.
Et
je crois qu'elle en a
philosophe.
Été très, très malheureuse. Oui, très malheureuse. Mais il faut quand même savoir. Vous savez, quand on plonge un tout petit peu dans l'histoire du passé et qu'on regarde les vraies choses, pas les inventions des biographes romanciers, mais vous savez que l'un des premiers livres de Descartes, c'est sur la musique.
Non,
on croit toujours que c'est la logique et le raisonnement, etc. Mais il est écrit également sur la musique. Donc, ils étaient faits pour s'entendre. Voilà. Alors donc, la venue de Descartes, ça correspond aussi avec sa conversion. Parce que, évidemment, en Suède, tout le monde est luthérien. C'est même la religion obligatoire de la Suède. Et, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe chez Christine. Elle veut sa liberté. Et je pense que c'est ça. Pour l'instant, c'est encore mon hypothèse. Je vais essayer de la confirmer. Mais j'ai l'impression qu'elle avait envie de davantage de liberté et qu'elle a pensé que les catholiques étaient plus libres que les rigoureux luthériens vêtus de noir et un peu austères, si vous voulez, qu'elle avait autour d'elle. Et donc, elle a pensé pendant des années à cette conversion, sans trop en parler. Et puis finalement, elle s'est décidée et il semble bien quand même que Descartes les fait réfléchir.
Rôle,
oui, il a joué un rôle certainement.
Pas sans un maître spirituel.
Absolument.
En général, oui.
Absolument. Alors il y a aussi des jésuites qui sont venus en se déguisant, etc. Et puis finalement, son abdication se fait. Donc elle a 28 ans. elle file immédiatement, elle quitte la Suède. On dit même qu'en sautant le petit ruisseau qui faisait la frontière entre la Suède et le Danemark, parce que le sud de la Suède était une possession du Danemark à cette époque-là, donc elle passe le petit ruisseau et elle dit « enfin, je suis libre ». Alors, elle s'en va, comme je vous disais, à Hambourg, puis à Anvers, puis à Bruxelles, où elle va rester plusieurs mois. Et c'est là qu'elle se convertit secrètement, avec seulement 4 témoins, le grand-duc et 3 autres personnes, qui sont secrètement. Mais son intention, c'est d'aller à Rome. Mais alors, parce que, alors c'est ça qui est encore comme paradoxe. Elle n'est plus reine, mais elle est encore reine. Elle est encore une majesté et jusqu'à son dernier jour, il faudra qu'elle soit traitée comme une reine, bien qu'elle ait abdiqué. Alors, on l'attend un peu partout et en particulier à Bruxelles. On la cajole, on la soigne, Et elle veut absolument une grande fête et un grand opéra. Elle va écouter cet opéra, Ulysse dans
l'île de Circé, dont vous nous parliez tout à l'heure.
Où elle va assister aux amours de Circé et d'Ulysse, qui a été donné en grand, grand, grand luxe pour elle. Et je pense que c'est sa première manifestation de l'opéra et qu'elle n'était plus reine depuis quelques semaines, mais qu'il y a quelque chose qui, par la musique, va arriver sur elle dans la somptuosité, si vous voulez, de la musique qu'on lui donne à Bruxelles et que nous avons restituée il y a 3 ans. Voilà la grande musique qu'on a jouée pour Christine, mais c'est une musique de fête, c'est une musique de parade, mais c'est l'ouverture d'Ulysse dans l'île de Circé. Mais le grand choc, à mon avis, pour Christine, ça va être la suite. Parce que cet opéra est vraiment très beau et nous sommes très fiers avec ces musiciens de Bruxelles d'avoir retrouvé ça avec Stéphanie de Failly au violon et puis Céline Chêne qui va chanter.
Vous êtes très fiers. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de cette somptuosité dont vous parlez ? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait aujourd'hui des opéras, à votre avis, aussi somptueux ? Parce qu'aujourd'hui, on fait des opéras dans les opéras. Voilà, c'est pas... Est-ce que ça peut être plus somptueux que ce que c'est aujourd'hui ?
Il y a d'abord le sens des décors, n'est-ce pas ? Oui. À cette époque-là, on vient de découvrir, avec Torelli en particulier, ce que c'est que les changements de décors, les machineries, Vénus qui flotte dans les airs, sur les nuages, etc. etc. C'est ça l'opéra de cette époque. Et on va en avoir la preuve encore musicalement. Si vous écoutez le duo d'amour entre Céline Chêne, qui est Circé, et Ulysse, qui est Furiosa Nazi, si vous écoutez bien, vous devinez ce qu'il y a dans la mise en scène, c'est-à-dire que Vénus est au-dessus d'eux, planant sur son nuage, dans les airs, etc. Et on l'entend avec la musique pendant qu'ils font leur duo d'amour.
Vibrami, 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 nella
magnifique moment d'amour, alors, dans l'île de Circé.
Absolument. Ça va malheureusement se terminer mal, vous savez, parce que toutes ces histoires d'amour-là, il y a toujours soit Apollon, soit des chevaliers, quand c'est Armide, soit etc., qui vont dire à l'amoureux, quittez cette femme. Alors, vous avez remarqué que dans toutes ces histoires, que ce soit Armide, que ce soit Circé, la femme est toujours une magicienne. Elle envoûte son homme comme ça. Et le pauvre Ulysse ne peut plus échapper, sauf si un dieu intervient. Voilà. Alors, c'est ce qui va malheureusement arriver à la fin.
Bien. Alors, Christine de Suède, à Bruxelles, donc elle écoute cet opéra et elle est envoûtée. Elle a toujours le projet d'aller à Rome, je suppose.
Ah oui, bien sûr. Bien
passe-t-elle
sûr.
Par Paris?
Non, elle non. ne passe pas par Paris, elle y viendra plus tard. Elle descend. Et alors, c'est là qu'il va se passer quelque chose de très important encore, tant du point de vue historique que du point de vue musical, c'est que le pape exige, parce que c'est très important hein, cette conversion, c'est la première fois qu'on voit un souverain passer du protestantisme au revenir
dans le giron.
Parce que,
voilà.
C'est ça, au siècle précédent, ça s'est fait, le nombre de souverains qui se sont convertis au luthéranisme, au calvinisme, surtout luthéranisme, bon, on le sait, mais pas en sens inverse. Pour l'esprit de la contre-réforme, si vous voulez, cette conversion d'une reine, c'est quelque chose de capital. Alors, elle a voulu le faire en secret, à Bruxelles. Bon, elle avait des raisons, je pense, politiques pour le faire. Mais le pape dit, je suis d'accord pour que vous veniez à Rome. Enfin, je ne dis pas ça dans ces termes-là.
Ça va officialiser.
Mais il faut que vous n'arriviez que quand vous serez officiellement converti. Alors, elle réfléchit et elle dit, ben, je passe par Innsbruck chez le grand-duc. Alors, elle va s'arrêter à Innsbruck, qui est en train de devenir la grande capitale musicale de l'Europe, avec justement cette maison d'Autriche qui... Et alors là, c'est encore plus époustouflant. Christine va découvrir, et on va monter pour elle, parce que, encore une fois, il faut tout mettre ensemble. Le grand-duc est parfaitement conscient de l'importance de sa venue, puisque c'est là que, officiellement, elle va faire exploser cette bombe énorme dans le monde religieux de l'époque. C'est une nouvelle absolument stupéfiante pour tout le monde, encore plus étonnante que son abdication. Et donc, il va faire des fêtes prodigieuses pour elle. Elle va rester quelque temps à Innsbruck, et là, en particulier, elle va voir un opéra de Cesti. Donc, à Innsbruck, chez le grand-duc, on va jouer pour elle l'Argia de Cesti, qui va être une seconde révélation de l'opéra, mais alors de manière encore plus fastueuse que le Zamponi qu'elle avait entendu à Bruxelles. Et Cesti deviendra pour elle un musicien fétiche, qu'elle fera jouer ses œuvres à Rome indéfiniment. Alors, c'est une très belle œuvre. Elle a été jouée il y a quelques années au Théâtre des Champs-Élysées. Ça a été même retransmis par France Musique, mais je n'ai pas encore l'enregistrement.
Donc, on ne peut pas l'écouter ?
On ne peut pas l'écouter.
Oh, dommage.
C'est dommage. Mais c'est une œuvre absolument sublime. Alors, elle s'arrête donc à Innsbruck. Là, on fait des quantités de fêtes en son honneur, y compris de grandes fêtes religieuses pour lesquelles je vais essayer de retrouver le programme musical, parce qu'à la chapelle d'Innsbruck, on a dû faire de la bien belle musique aussi. Et on explique au monde que Christine de Suède est
convertie.
Catholique. Alors elle reste là quelque temps, et ensuite elle descend sur Rome, s'arrête dans diverses villes. Alors ça devient...
Elle ne passe pas inaperçue.
Elle ne passe pas inaperçue, parce que enfin, le pape a envoyé des messages à tout le monde. C'est la grande nouvelle du siècle, enfin. Alors on la reçoit admirablement, y compris à Rome. Elle arrive à Rome juste avant Noël, et elle va être confirmée à Saint-Pierre de Rome, des mains du pape, et elle s'appelle à partir de ce jour-là Christine Alexandra, puisque le pape c'est Alexandre VII. Alors désormais elle s'appelle Christine Alexandra. Alors, je disais qu'elle s'est convertie avec l'idée qu'elle allait retrouver sa liberté. Et en fait, je ne sais pas si je vous ai assez parler de la manière dont désinvolte, provocatrice, mais pas, c'est, provocatrice, ce n'est pas le mot, parce que ce n'est pas pour faire de la provocation, c'est son naturel.
Ça choque les gens.
Elle, ça choque
elle,
les gens.
Elle ne veut pas provoquer.
Par exemple,
oui.
Sa manière de regarder les gens en face, de marcher à toute vitesse. Les femmes à cette époque-là marchent lentement, en faisant des petits pas sur le sol et en faisant des jolis gestes avec leurs mains. Et elle bouillonne tout le temps.
D'ailleurs, à 28 ans, elle n'est pas mariée. Vous ne m'avez pas dit si elle était mariée. Voilà.
Elle a décidé depuis toujours qu'elle ne se marierait jamais.
Ah bon ?
Alors,
déjà aussi, ça choque un peu.
Ça aussi.
Oui.
Alors oui, quand elle a abdiqué en faveur de son cousin, Charles Gustave. Donc elle n'est pas mariée et elle ne se mariera jamais. Alors là aussi, vous avez des biographes qui batifolent, qui disent qu'elle avait une déformation physique et qu'elle ne pouvait pas se marier.
Y a-t-il des preuves de tout cela ? Non, vous n'en avez pas trouvé.
Pas plus de preuves d'ailleurs qu'elle se roulait dans tous les lits dès qu'elle a rencontré un. C'est pas plus vrai non plus. Parce qu'on dit tout sur elle.
Elle a fait beaucoup de correspondances, comme vous l'avez dit. Elle doit aussi raconter un peu.
Elle raconte un peu. Elle racontera sa mémoire, mais évidemment, elle ne raconte pas sa vie sexuelle, comme on dit aujourd'hui. Mais sa vie intime, de sa pensée intime, si, elle l'a dit.
C'est parce que ça avait plus d'importance pour elle que le reste.
Bien sûr. Et n'est-ce pas, plus tard, non, très vite, bientôt, elle va se prendre d'une espèce d'amour pour un cardinal, cardinal Azzolino. Alors, n'est-ce pas, vous avez des biographes qui disent qu'ils couchaient ensemble tous les soirs. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. C'est un amour, un vrai amour qui va durer 20 ans, hein, mais tout à fait sublimé et platonique. Et les lettres de Christine, je pense, nous le démontrent.
Une rencontre intellectuelle aussi, une forte rencontre intellectuelle et spirituelle, naturellement.
Alors donc, elle va commencer tout de suite à Rome par dire « je veux créer une académie, je vais faire des concerts » et elle commence à faire des concerts chez elle et chez elle, entre nous, le palais Farnèse. Excusez
rien
du peu, elle n'est pas mal logée, pas plus mal en tout cas que l'ambassadeur de France aujourd'hui. Voilà, mais assez vite... Elle choque à Rome. J'essaie d'analyser un petit peu les choses. Je pense qu'elle s'était fait des illusions. Pour elle, quitter le luthérianisme austère et aller vers Rome, la Renaissance, la peinture, la beauté,
oui.
L'opéra, etc., c'était la libération. Et en réalité, elle arrive à Rome et elle s'aperçoit que c'est pas mal coincé aussi, que la contre-réforme... Bon, alors elle choque par ses manières, mais par ses paroles... Puis alors en plus, elle a des problèmes financiers, parce que quand on n'est plus reine et qu'on veut avoir une vie de reine, ça coûte cher. Alors, elle va partir assez vite pour la France. Et là, ça va être toute une aventure. Alors là aussi, je suis très fâché contre les biographes et les historiens. Vous avez par exemple un historien qui a écrit un volume entier sur le voyage de Christine depuis Rome jusqu'à Paris, la région parisienne. Il parle de tout. Jour par jour, hein, ça fait un gros volume. Pas un mot sur la musique, alors qu'on lui en a fait tous
c'est
les soirs.
C'est très bien, au contraire, mais ça oui, vous laisse mais oui, mais... la possibilité mais maintenant de faire un gros livre.
Mais oui, mais c'est... Alors, parce que partout, à Marseille, à Aix, à Arles, à Avignon, à Lyon, à Dijon, partout, on lui fait de la musique. Et quand elle arrive, bien entendu, alors ça, je commence à avoir quelques documents là-dessus, elle va arriver à la cour de France et elle va entendre de la musique. Là-dessus, je vais assez vite parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter encore. Elle a un petit complot avec Mazarin, qui était Mazarin, c'était quand même una combinazione per la politica. Si. Mazarin, comme tous les souverains de France depuis François Ier et même avant, rêvait de Naples. Vous savez qu'ils rêvaient tous de l'Italie, les guerres d'Italie, tout ça. Or, la succession de Naples va s'arrêter. Alors, Manzarino, il a fait une combinazione. Il dit, puisque cette reine ne veut pas se marier, qu'elle n'aura pas de successeur, nous allons la nommer reine à Naples, et quand elle mourra, ça reviendra à la couronne de France.
Bon calcul.
Et Christine s'en va toute contente, en se disant, ça y est, je vais être reine. C'est même comique, telle qu'elle est, rien qu'un détail pour vous montrer son caractère. Elle se fait déjà coudre les 150 costumes de sa garde royale de Naples, des costumes rouges avec des broderies.
Oui.
Et elle se ruine alors qu'elle ne sera jamais reine de Naples, parce que Mazarin, il a changé d'avis entre-temps, et ça s'est dit que ce n'était pas tout à fait raisonnable. Alors, là-dessus, Christine revient une deuxième fois en France. Là, encore un coup de son caractère. Je peux vous raconter encore des histoires.
J'en ai pour trois jours.
Elle arrive à Fontainebleau, et alors là, elle s'aperçoit qu'effectivement, les affaires de Naples ne vont plus du tout. Et elle va s'apercevoir qu'en fait, c'est un de ses très proches assistants qui probablement l'a trahi. Bon, alors elle est à Fontainebleau, et elle le fait assassiner sous ses yeux. comme une reine.
D'où sa réputation un peu cruelle, de cruauté.
Absolument.
Mais oui. Elle n'hésite pas.
Elle n'hésite pas. Alors, ça a été très mal vu par la cour de France, évidemment, parce qu'elle a fait ça dans un lieu français, appartenant au roi de France. Alors, je crois qu'il faut entrer dans la mentalité pour elle, à partir du moment où elle est quelque part, elle est reine, ses conseillers, ses, je ne dis pas ministre, parce qu'elle n'avait plus de ministre, mais ses conseillers sont à ses ordres. S'il y en a un qui l'a trahi, on le tue. Et à partir du moment où elle est à Fontainebleau, Fontainebleau, c'est chez elle, puisque le roi de France lui a prêté Fontainebleau pendant quelques mois. Mais en France, on voit ça de très très mal, et il est assez mal reçu après ça au Louvre. Il n'empêche qu'au Louvre, elle est là au mois de février, c'est le carême, c'est juste avant le carême, ce sont les fêtes traditionnelles du Mardi Gras et de toute cette... du carnaval, et on fait de nombreux ballets, c'est la tradition française depuis le XVIe siècle. Alors, elle va assister ici... Nouvelle surprise, elle va assister au premier ballet qui soit entièrement de la main de Lully, qui est en France depuis un certain nombre d'années, mais qui ne fait que des bricolages jusque-là, et qui va composer le premier grand ballet de sa main, qui s'appelle le ballet d'Alcidiane. Vous savez ce que c'est qu'un ballet de cour ? Ce n'est pas un bal. Hein. C'est un ballet où un certain nombre de courtisans, y compris le roi, dansent. Et ils jouent des rôles. Hein, c'est pas un bal, c'est
oui,
du théâtre.
C'est du théâtre.
C'est
oui.
du théâtre. Et elle va en particulier voir le jeune Louis XIV. Nous sommes en 1659. Il n'est même pas encore roi. Mazarin, enfin, il est roi déjà, mais c'est Mazarin qui continue à gouverner. Il a 21 ans et il danse le rôle de l'innocence.
Évidemment, je comprends, Philippe Bossan, qui a travaillé plusieurs ouvrages sur Louis XIV et sur Lully. Vous aviez déjà croisé Christine de Suède, au moins dans le public.
Absolument, absolument. Alors, elle a dû danser aussi à la cour de France. Je suis presque sûr qu'elle a dansé. Il faut que je trouve encore les
preuves,
les précisions. Mais je crois qu'elle dansait d'une manière un peu trop nordique et qu'on l'a trouvée un peu rude. Ça n'était pas dans le style français qui était beaucoup plus doux et beaucoup plus délicat. Alors, elle reste quelque temps en France et puis finalement, elle repart. Elle repart pour l'Italie. Alors, elle va voyager pendant pas mal de temps. Elle va aller à Hambourg, elle va aller un peu partout. Elle va retourner en Suède. Oui, elle espérera même récupérer son trône. Je vous dis,
elle est pleine de contradictions,
absolument. Et puis finalement, bon, bien sûr, elle ne l'aura pas, d'autant plus que les Suédois protestants ne veulent pas d'une catholique
évidemment.
Comme reine, c'est évident. Donc elle finit par repartir, elle revient à Rome, et là, elle va s'installer au palais Riario, qui est aujourd'hui le palais Concini, qui existe toujours, où elle va rester jusqu'à sa mort en 1689. Voilà, elle meurt à 64 ans, ce qui n'est pas très, très âgé, mais enfin, pour l'époque, c'est raisonnable. Et alors, pendant ces 20 dernières années à Rome, elle va devenir, et on l'appelle comme ça à Rome, la padrona di Roma. C'est la patronne de la littérature, de la musique, de la danse, des arts. J'ai oublié de vous parler de sa collection de peinture aussi.
Eh oui, on faisait une émission de musique, mais on peut parler un peu de peinture.
Oui.
Chez vous, ça va toujours ensemble.
Ah oui. parce qu'elle a hérité d'une collection incroyable de peinture et qu'au moment de son abdication, attention, elle était maligne quand même, elle a prudemment fait partir toute sa collection de peinture avant la cérémonie de l'abdication. Donc tout était déjà à l'étranger. Parce qu'elle avait, je ne sais pas, 300 ou 400 peintures de la Renaissance, peut-être même davantage, dont une grande partie lui venait du sac de Prague. Lorsque Prague a été pris pendant la guerre de 30 ans, vous savez, la guerre de 30 ans, c'est l'horreur dans toute l'Europe centrale. Et Prague a été pris, il y avait une collection magnifique de peintures et on a tout envoyé à Stockholm. Et de là, c'est parti à Rome. Et donc, à Rome, elle a ce palais où elle a une collection admirable de peintures qui est dispersée dans le monde aujourd'hui. Elle a des Titiens, elle a des Véronèses, elle a tout, toute la grande peinture de la Renaissance. Elle a aussi des peintres du Nord, mais elle dit qu'elle ne les aime pas. Elle donne toute la peinture du Nord pour un Léonard de Vinci. Bon, elle a ça, elle fait des tas de concerts chez elle. Elle constitue son orchestre privé, premier violon, Corelli. C'est pas mal. Elle a des bons chanteurs qui sont avec à la chapelle Sixtine et chez elle. Et puis, elle va faire quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Elle va ouvrir le premier théâtre d'opéra public à Rome. Parce que c'était interdit par la papauté jusque-là. Et puis, il se trouve qu'elle était en bonne amitié avec le pape qui lui a donné l'autorisation. Et elle a donc ouvert le théâtre de Tordinona, qui est le premier théâtre.
Beau cadeau pour les Romains.
Beau cadeau pour les Romains. Alors, le pape suivant le fera fermer. On le rouvrira à son successeur, mais elle sera morte déjà. Donc, ça n'a marché que pendant quelques années. Mais elle a eu donc Cesti comme musicien, Cavalli, tous les grands compositeurs du temps, Marazzoli, vont venir jouer pour elle. Et puis, plus tard, elle va avoir Scarlatti, le jeune Scarlatti et le jeune Corelli. Corelli, premier violon, Scarlatti
au
clavecin et maître de chapelle. Bon, c'est pas mal. Et c'est comme ça que l'opéra romain va se développer à côté de l'opéra vénitien. Alors, dans un premier temps, elle fait venir beaucoup d'œuvres qui viennent de Venise, puisque c'est à Venise que l'opéra s'est développé, avec Cavalli en particulier, Cavalli, Cesti, etc. Mais elle reprend leurs œuvres, quand elles ont été créées à Venise, c'est moins cher, la reprise. Et puis, elle a aussi d'autres compositeurs, en particulier Stradella, qui va devenir...
Il ne venait pas de Venise, lui.
Non, il vient du sud de l'Italie.
Ayant lu votre roman, je croyais...
Ah oui, mais j'ai tout inventé.
Vous avez tout inventé,
j'ai tout inventé. Non, ça se passe au début à Rome, ensuite il va à Venise, puis ensuite il revient. Mais oui, j'ai inventé beaucoup de choses dans ce roman.
Elle fait venir Stradella, en tout cas.
Alors, elle fait venir Stradella, qui va composer... Une grande partie de ses cantates ont été composées pour elle. Il a composé pour elle l'un de ses chefs-d'œuvre de musique religieuse aussi, car elle en fait, c'est San Giovanni Battista, Saint Jean-Baptiste, qui est l'une de ses plus belles œuvres, c'est fait pour elle. Et puis également la Sainte Suzanne, dont, si vous voulez bien, on écoute un petit fragment. C'est un de ses chefs-d'œuvre aussi, qui est extrêmement touchant. Alors, je viens de vous parler de Saint Jean-Baptiste, de Sainte Suzanne. Elle devient de plus en plus religieuse à mesure qu'elle vieillit.
Dévote un peu ?
Non, je ne dirais pas ça, parce que c'est un mot qui ne lui convient absolument pas. Sa liberté de décider de tout, comme je disais tout à l'heure, s'installe dans sa religion et elle devient profondément, pas dévote, pas bigote, c'est pas du tout ça. Et quand elle va écrire ses mémoires, elle écrit ses mémoires en les dédiant en les adressant à Dieu. Et au lieu de parler à la première personne tout simplement et de raconter sa vie comme fait n'importe quel mémorialiste, elle écrit ceci. « Je vous consacre, Seigneur, en cet ouvrage, tel qu'il est, ma vie passée. Je la consacre à vous, qui êtes mon unique et glorieux principe, à vous, qui êtes et serez éternellement ma glorieuse et unique fin. » Voilà les mémoires qu'elle écrit. C'est pas n'importe quoi. Elle avait un caractère certainement impossible. Elle était vive, exagérée, contradictoire, tout ce que vous voulez. Mais je crois que c'était une personne très grave aussi et très sérieuse. Et Stradella, qu'il était plus que je ne l'ai dit dans mon roman, a écrit pour elle son oratorio de Sainte Suzanne avec des pages vraiment admirables.
Thank you.
si on doit bien quelque chose à Christine de Suède, c'est d'avoir fait composer Stradella, si
absolument,
je comprends bien.
Absolument. Et dans la musique que nous venons d'entendre, c'est très émouvant parce que ce que dit Sainte-Suzanne, vous connaissez l'histoire de la pauvre petite,
oui,
Sainte-Suzanne. Sainte-Suzanne qui était en train de prendre son bain dans un ruisseau tranquillement. Et puis il y a deux vieillards lubriques qui arrivent et qui la houspillent. Dieu sait ce qu'ils font. Et là, elle chante « C'est ma beauté qui est la cause de mon malheur ».
Voilà, très jolie scène, en effet. Peinte aussi par de nombreux artistes. Dernier moment où là, elle meurt à Rome.
Alors, elle meurt à Rome, mais elle a fait encore beaucoup de choses. Elle a continué à prendre des leçons de chant avec un des chanteurs de la chapelle Sixtine. Et puis, alors, je ne sais pas quand elle a commencé à apprendre le violon. Certainement, elle touchait le clavecin aussi, mais elle s'est mise à apprendre le violon. Et je ne sais pas si elle le faisait déjà dans sa jeunesse. Il faut que je vérifie ça. J'ai encore des recherches à faire. Tout ce que je peux vous affirmer, parce que là, on en a les preuves, c'est qu'à la fin de sa vie, elle avait Corelli, non seulement comme premier violon de son orchestre privé, mais comme professeur de violon, ce qui est pas mal, somme toute. Je suppose qu'elle devait quand même jouer à peu près juste.
Sinon, il l'aurait peut-être abandonné.
Absolument. Et en tout cas, c'est à elle qu'il a dédié son opus 1, c'est-à-dire le premier livre de sonates du premier grand violoniste de l'histoire de notre musique. C'est à elle que c'est dédié.
C'est tout de même important. Philippe Bossan, peut-être avant de nous quitter, encore une question. Combien de temps faut-il pour rassembler toutes ces informations, ces preuves, ces documents?
Il en faut beaucoup, d'autant plus que dans ce cas précis, tout est répandu un peu partout. Il y a relativement peu de choses en France.
Alors vous courez
l'Europe? Il y a des choses qui sont à Stockholm, il y en a beaucoup. Il y a plein de choses qui sont à Rome, à la Bibliothèque Vaticane. Alors il y a quand même des choses que nous connaissons. Parce qu'elle ne croyait pas qu'elle se contentait de faire du violon et de faire de la musique et de danser. Elle avait une passion aussi pour le théâtre parlé, français en particulier. Et elle adorait Corneille, elle a beaucoup joué de Corneille, et elle a fait jouer les premières pièces de Racine à Rome. C'est-à-dire qu'on a joué Alexandre de Racine à Rome. Et la vie et l'esprit est provocateur de cette femme, même si elle est complètement religieuse à la fin, elle a voulu faire jouer Tartuffe à Rome. Tartuffe à Rome, vous imaginez?
Faut oser.
Sens de la provoque. Comme on dit, on peut pas aller plus loin.
Merci Philippe Bossan. Votre livre sortira quand et chez qui?
Alors, quand il sera fini.
Quand il sera fini, bon, on est impatient, mais enfin, on vous laisse le temps. Et chez quel éditeur?
Alors, ce que j'espère, c'est qu'au moment où il sortira, on va pouvoir faire de grandes fêtes musicales. Parce que
vous prévoyez, vous organisez déjà dans votre tête les grandes festivités.
Des concerts, et une tournée de concerts, Stockholm, Bruxelles, Paris, Fontainebleau, Versailles, Innsbruck, Rome.
Sur les pas de la reine Christine.
Jouer au Palais Farnèse, ce serait quand même un rêve.
Oui, absolument. Très bien, merci Philippe Bossan et à bientôt, peut-être pour une autre émission musicale.
Eh bien, pourquoi pas.
Ou de peinture, parce que j'aimerais bien
ou
aussi vous...
Ou de littérature.
Ou de littérature, en allant voir Ornichois. Merci.